dans la valise de Léon, un programme des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Épisode 1. Dans la valise de Léon, il y a l'indicateur fidèle ou guide des voyageurs.
Cet été, une fois n'est pas coutume, quittons la bibliothèque de Léon, Nelly, pour fureter dans les rayonnages de celle des archives départementales. Peut-être y trouverons-nous un ouvrage que Léon aurait pu glisser dans sa malle de voyage. Gageons que l'indicateur fidèle ou guide des voyageurs, véritable succès de librairie entre 1765 et 1785, publié par le sieur Desnos, tout à la fois imprimeur et ingénieur géographe pour les globes et sphères, aurait éveillé l'intérêt de notre ami. Surtout à la lecture de ces trois sous-titres particulièrement détaillés. Le premier, qui enseigne toutes les routes royales et particulières de la France, routes levées topographiquement dès le commencement de ce siècle et assujetties à une graduation géométrique. Deuxième sous-titre, contenant toutes les villes, tous les bourgs, villages, hameaux, fermes, châteaux, abbayes, communautés, églises, chapelles et autres maisons religieuses, les moulins, les hôtelleries, les justices et les limites des provinces, les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les étangs, les marais, les ponts, les gués, les montagnes, les bois, les jardins, les parcs, les avenues et les prairies traversées par les grandes routes. Le troisième, accompagné d'un itinéraire instructif et raisonné sur chaque route qui donne le jour et l'heure du départ, de la dînée et de la couchée, tant des coches par eau que des carrosses, diligences et messageries du royaume, avec le nombre des lieux que ces différentes voitures font chaque jour. L'édition, conservée à la Bibliothèque des Archives départementales, est la cinquième du titre et date de 1785. Après les sous-titres, un avertissement envahit le reste de la page. Personne ne doit ignorer combien cet ouvrage a coûté de peine et de soins pendant plusieurs années pour le rendre digne du public. Les susdits sieurs, persuadés de l'avantage que l'indicateur fidèle ou guide des voyageurs peut procurer aux commerçants, navigateurs, voyageurs et à tous ceux qui seront curieux de s'instruire de la distance d'un lieu à un autre, se flatte de l'avoir rendu si complet que les amateurs y trouveront tout ce qu'on peut désirer dans un ouvrage où l'on n'a rien épargné pour le porter à la perfection dont il est toi susceptible. En effet, la réalisation de l'ouvrage a dû être fastidieuse, car au milieu du XVIIIe siècle, les trajets étaient déterminés en journées et non en heures de voyage. À cette époque-là, Denis-Charles Truden fonde l'École royale des ponts et chaussées afin de former des ingénieurs capables de conduire les grands chantiers de réalisation du réseau routier souhaité par Louis XV. L'objectif est simple. Il doit être possible, depuis la capitale, de rallier au galop les coins les plus reculés du royaume, de façon à permettre une transmission plus rapide des ordres du gouvernement. L'énorme travail de levée topographique et de dessin de précision qui s'en suivit éclaire sans doute sur la portée de l'avertissement de l'ouvrage. Les ingénieurs travaillaient par zones déterminées, d'abord sur les cartes de Cassini, puis se rendaient sur place afin de vérifier la concordance des détails, emplacement de maisons, de forêts, de routes, de cultures, et de contrôler l'orthographe des lieux en lien avec des personnes instruites, souvent des curés. Néanmoins, la précision des cartes se faisait plus aléatoire au fur et à mesure que l'on s'éloignait du tracé prévu de la route à construire. La rédaction des minutes de ces relevés faisait l'objet d'une norme et de codes couleurs très précis. Les parties de chaussées faites en pavé seront lavées en rouge, celles de cailloutis ou empierrement en jaune, celles de gravier en gris, et les parties où le terrain naturel n'est revêtu d'aucun ouvrage d'art seront laissées en blanc. Soit que ces dernières parties se trouvent alignées ou ne le soient pas encore. Ainsi, on retrouvera dans notre indicateur fidèle, colorié au lavis, toutes les grandes routes royales, les cours d'eau et les forêts traversées, les villes d'étape et certains autres lieux rencontrés durant le voyage. Villages, hameaux, fermes, moulins et cabarets. Cet essor du réseau routier à des fins administratives a contribué à développer les échanges commerciaux, évidemment, mais aussi à instiller l'idée du voyage dans les têtes, à tout le moins dans celles des classes aisées. À cet effet, le guide accompagne chacune des cartes d'un descriptif indiquant l'heure de départ de Paris, le nombre de jours de route d'un point à un autre, les services de voitures publiques, diligence, carrosse, coche ou fourgon, les haltes où il y a dîner et ou coucher, et enfin la distance en lieu entre Paris et la destination, dont la complexité du calcul laisse pantois. L'on voit que Lyon est suivant la méridienne de Paris à la hauteur de 70 lieues et qu'il est éloigné de la même méridienne de 30 lieues, ce qui forme un rectangle dont l'hypoténuse est la distance que l'on cherche et qui se trouve par la racine carrée être de 80 lieues ou 100 lieues parisiennes. CQFD. Malgré ces savants calculs, le Languedoc était encore une zone blanche en 1780. Lacune comblée dans notre édition de 1785, où la 18e feuille indique que l'on peut rallier Carcassonne par Toulouse, plus de 15 jours de route depuis Paris, jusqu'à Toulouse seulement, et Narbonne par le chemin d'Albi. L'ouvrage se voulait maniable. Il proposait des cartes reliées sur une série d'onglets, détachables facilement. Le voyageur pouvait ainsi acheter uniquement celles qui l'intéressaient. L'observation de ces cartes offre un regard amusant sur les déplacements en France au XVIIIe siècle et nous permet de noter que le dessin du réseau d'alors est encore celui en vigueur aujourd'hui.
Les archives départementales de l'Aude vous proposent d'autres podcasts sur son site internet ou sur de nombreuses plateformes de diffusion telles que Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.